Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Fenêtre sur cour, une émission initiée et en partenariat avec la Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu. Sont présentes aujourd'hui
Evelyne,
Bernadette,
Annie,
Emeline,
Guylaine,
Micheline,
Christine,
Elisabeth.
Nous allons vous entraîner dans un monde où se côtoient tissus, boutons, dentelles et autres merveilles avec Emeline Rich et ses créations diverses dont elle va vous parler. Et puis aussi une autre personne sans laquelle tout cela ne serait pas forcément possible, une marchande de laine, de tissus, de coton, de fil aux couleurs variées et qui a ouvert il y a quelques mois un magasin à Bourgoin-Jallieu. Mais nous allons leur laisser la parole.
Alors, juste deux mots pour vous dire que, en regard des événements récents, plus que jamais, nous avons pris conscience de la chance que nous avons de pouvoir nous exprimer librement sur Couleur FM 97.1.
Emeline Rich, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme nous l'a dit Micheline, vous êtes styliste et créatrice. Mais avant de nous parler de ce beau métier, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous, Emeline, et quel a été votre parcours?
Alors, à la base, je n'étais pas forcément destinée à ce que j'allais faire. J'ai fait plus un parcours général. J'ai fait un bac économique. Et après le bac, j'ai tenté d'intégrer une école de mode. Et l'ambiance ne m'a pas plu, ça ne me correspondait pas. Et du coup, je me suis dirigée dans un BTS Industrie Matériaux Souples dans le cuir. Donc en fait, c'est tout ce qui est la réalisation, fabrication de chaussures. Et après ce BTS, j'ai fait une année de licence en design pour m'ouvrir un petit peu les portes et puis découvrir ce que c'était que le design. Donc j'ai appris beaucoup de choses durant cette année-là, mais c'était pas ça que je voulais faire non plus. Et à la suite de ça, j'ai fait quelques petits boulots pour pouvoir vivre un petit peu. Et puis un jour, je me suis dit je vais me lancer. Parce que j'ai toujours bidouillé, j'ai toujours fait des choses. Et j'ai commencé, je me suis acheté une machine. Et puis j'ai commencé à faire des petites choses, principalement pour les amis, parce qu'on commence toujours par là. Et au fur et à mesure, voyant que moi ça me plaisait et que je m'amusais énormément, j'ai décidé de faire des marchés d'artisanat, de créateur. Et puis ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça.
Vous paraissez si jeune, donc qui êtes-vous? Vous n'avez pas trop répondu à ma question. Vous êtes de la région, je crois. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret?
Non, je suis de la région. Je suis née à Bourgoin. J'ai fait toutes mes études à Bourgoin et j'ai 28 ans. Voilà.
Et là, ce que vous fabriquez, je veux dire, si vous aviez à en parler pour donner envie, qu'est-ce que ça serait vos particularités, votre petit truc à vous en plus?
Alors, mon petit truc à moi, quand je définis mon travail, c'est je fabrique des vêtements, accessoires, trucs et bidules rigolos. Comme ça, c'est assez ouvert. Mais la base de mon concept, c'est de travailler avec des tissus de récup. Je tiens... c'est là-dedans que je m'amuse. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à chercher le petit bout, à chiner... le tissu, la matière, la couleur qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et puis, je voulais vraiment ce concept dans le sens où, étant une grande amatrice de vêtements, de créateurs, tout ça, à chaque fois, j'étais vraiment frustrée de pas pouvoir en acheter parce que c'était quand même horriblement cher. Du coup, je voulais arriver à vraiment utiliser cette matière de récup pour pouvoir... faire des prix abordables à toute personne lambda, quoi. Donc que tout le monde puisse se payer une création unique de créateur. Voilà, donc ce qui me caractérise, ça serait plus cette recherche de tissus particuliers récupérés qui a déjà une histoire et puis d'essayer d'en refaire autre chose.
Et il y a des tissus qui vous parlent particulièrement, que vous aimez travailler ?
Pas forcément, c'est parce que comme je n'ai pas de base en fait dans la couture, je suis autodidacte. Même si j'ai eu des bases dans le cuir, dans le textile, je ne connais pas vraiment toutes les spécificités, les qualités des tissus. Donc du coup, c'est pas vraiment le tissu en lui-même, c'est vraiment le toucher du tissu qui va m'inspirer. Qui va m'inspirer, me dire « Ah, ça, je verrais bien une petite robe ou quelque chose dedans. » Et au contraire, il y a des tissus que je trouve très jolis, mais quand je les touche, il se passe rien. Donc du coup, ceux-là, en général, je les laisse.
Nous avons devant nous quelques-unes de vos réalisations, créations. Ces réalisations, est-ce que c'est purement votre imaginaire, comme vous étiez en train de nous le dire, ou est-ce que vous avez des clientes qui vous demandent des créations plus particulières ?
Alors, il y a les deux. Enfin, là, de ce que vous avez devant vous, c'est vraiment, de mon imaginaire, entre guillemets. Pour vous en parler rapidement...
Déjà, on peut peut-être dire ce que nous avons
devant nous. Par exemple, le petit col tour de cou. Donc ça, je le réalise avec mes chutes de tissu. Donc une fois que j'ai fait, on va dire, le plus gros de mon travail, je garde toutes mes chutes. Et je les réassemble, je fais des petits tours de cou. Donc pour celui qu'on a, de la polaire, du velours.
C'est d'ailleurs très très joli.
La tache est en bretelle de soutien-gorge. Le petit bouton, c'est pareil, c'est de la chute de tissu rembourrée avec ce qui part à la poubelle. Après, vous avez les jupes portefeuille. C'est vraiment la création avec laquelle on me reconnaît maintenant. C'est vraiment ma patte. Parce que du coup, ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec la cravate de ces messieurs qu'ils ne portent plus. Et j'y ai découvert un attrait et un intérêt où vraiment je m'amuse avec. Donc sur la base de la jupe, en fait c'est la jupe portefeuille, donc j'ai rien inventé dans la forme. Voilà, j'ai pas de base, donc je travaille des formes qui sont simples. Et après, ce qu'on me dit souvent, c'est... et ce qui me caractérise, c'est mon assemblage de matières et de tissus et de couleurs. Donc, sur la forme, elle est très simple. Mais voilà, dessus, à chaque fois, vous retrouvez les cravates de ces messieurs.
C'est vrai qu'au regard de cette jupe, si on prend les tissus séparément, on n'aurait pas vraiment envie de les mettre ensemble. Mais là, la réalisation est vraiment très belle.
C'est souvent ça. Quand j'ai commencé à récupérer les cravates, que je récupère donc un peu partout, souvent à Emmaüs, et puis aussi beaucoup de personnes qui me les donnent maintenant, parce qu'ils savent que je travaille avec. Quand j'ai commencé à les récupérer, je prenais vraiment celles qui me plaisaient esthétiquement. Maintenant, je les récupère vraiment toutes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la cravate toute seule, effectivement, il y en a des très belles, il y en a des très kitsch, il y en a vraiment qu'on se demande comment ces messieurs faisaient pour les porter. Mais associé avec une autre cravate et avec d'autres tissus, du coup, ça lui donne vraiment toute sa valeur. Et du coup, ouais, vraiment, c'est un élément que je découvre tous les jours et que ce soit au niveau du motif ou du tissu, j'aime beaucoup les toucher, les regarder, voir d'où elles viennent.
On en voit une qui est dans les roses et les verts anis, qui est assez étonnante et qui est associée avec un tissu de tweed et à l'intérieur une doublure un peu décorée avec un appliqué presque de dentelle, quoi. Donc ça fait un mélange assez époustouflant.
C'est magnifique, les réalisations que nous avons devant nous sont très belles. Et très...
Inventive,
oui. C'est vraiment une création, donc une pièce unique, j'allais dire.
C'est vraiment de la pièce unique. Je refais jamais deux fois le même. Donc du coup, avec la cravate, c'est pas possible, parce que j'en trouve qu'une à chaque fois. Mais je refais jamais deux fois le même, parce que ça m'intéresse pas. Et puis c'est justement ça le cachet.
C'est de l'artisanat.
C'est de l'artisanat, c'est d'avoir une seule pièce.
Combien de temps vous mettez pour réaliser un vêtement ?
Alors, on va dire que pour tout ce qui est la partie collection que je présente justement au marché de créateurs, d'artisanat, que je vends, tout dépend du modèle. Soit, par exemple, les jupes, quand j'ai commencé à les faire, je mettais bien 2-3 heures à les faire. Maintenant, c'est un modèle que je mets, où je mets une heure. Mais parce que voilà, je l'ai amélioré, je le connais. Tout dépend du modèle, je mets entre 2-3 heures. Après, pour ce que je présente en collection, le but, c'est d'arriver à faire des modèles simples où je perds pas non plus trop de temps, mais où moi, je m'amuse et puis où le rendu est bien et à son succès. Après, pour tout ce qui est, on va dire, la partie sur mesure, où là, c'est des personnes qui viennent à moi pour vraiment des créations particulières. Ça peut être de la simple petite retouche, mais qui va redonner vraiment vie aux vêtements, à la création complète et... où là, ben, tout dépend du projet. Donc, moi, j'ai eu fait, voilà, à partir d'une robe existante qui était trop petite, mais que la personne adorait vraiment. Bon, bah, c'est pas grave, on va la remodifier, on va lui rajouter ça, on va remettre une petite bidouille par ici. Donc là, ça prend, voilà, 2-3 heures. Après, il y a des robes qui sont créées complètement de A à Z, où la personne arrive et me dit, voilà, moi, j'aime bien ces couleurs-là, j'aime bien votre idée de cravate. Bon, bah, attendez, je vous fais un petit assemblage. Et puis, vous me dites, donc là, ça peut prendre, voilà, une ou deux journées. Après, tout dépend du projet.
Voilà, vous nous avez parlé de l'origine de vos tissus, Emmaüs. Donc, ce sont des vêtements qui ont déjà été portés ou vous avez d'autres fournisseurs chez qui vous achetez des coupons, des morceaux de tissu neufs finalement, ou donc, vous nous avez dit aussi que les personnes pouvaient arriver avec leurs propres vêtements que vous allez mettre à leur goût. Mais vous avez d'autres fournisseurs?
Fournisseur, c'est un grand mot, mais effectivement, donc, bon, il y a entre autres Emmaüs où des fois je trouve et tissus et vêtements. Donc, ils ne sont pas forcément neufs, mais qui, voilà, qui n'ont pas été beaucoup portés. Les vide-greniers, je trouve beaucoup de choses en vide-grenier. Justement, des anciennes mercières, des anciennes personnes qui travaillaient en magasin de tissus, qui vident leur stock. Et puis, celui que je préfère, c'est Écolégramme, l'association à Bourgoin, qui du coup a une multitude de tissus et de chutes et d'échantillons qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. C'est ma petite caverne d'Ali Baba où j'aime aller farfouiller et trouver mes petits bouts de tissus.
Vous avez travaillé en collaboration avec Écolégramme?
En collaboration, bah, j'y ai travaillé en tant que salarié pendant un an et demi. Donc moi, je m'occupais du local. Bah, c'était une super expérience parce que du coup, ça m'a permis déjà de rencontrer d'autres personnes avec d'autres projets qui n'étaient pas forcément liés à la couture. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir cette soupape, de sortir un petit peu de mon univers en fait. Et donc de pouvoir voilà, rencontrer, partager d'autres projets complètement différents. Et puis ça m'a permis ben, de m'amuser à faire d'autres créations avec d'autres matières et d'être constamment voilà, dans cette recherche en fait. Donc maintenant je continue toujours d'y aller hein, parce que Écolégramme, moi j'y suis un peu née dedans, mais voilà, c'est plus en tant que bénévole et où de temps en temps je leur fais une petite robe pour le mannequin, petite déco par-ci par-là ou un petit coup de main.
Alors on va se faire une petite pause musicale, un peu de légèreté avec La Biaiseuse de Marie-Paul Bell.
Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier j'ai le béguin. Les filles c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Et le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec ardeur, avec entrain, je biaise du soir au matin. Par entrée, il dit y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser. Dans les grandes maisons de couture, y en a qui sont trop tard. Y a des vendeuses et par nature, y en a qui sont mannequins. Y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier,
j'ai le béguin. Les billets, c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec un heure, avec en train, je biaise du soir au matin. Quand mes parents voient pas rentrer, ils disent y'a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Je vais m'établir bien vite, me marier, quel bonheur, avec un garçon plein de mérite qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. C'est ça qui sera gentil, ma foi. On fera tout l'ouvrage chez soi, en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, on se partagera le turbin. Lorsque j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à plisser.
Comment vous êtes-vous fait connaître ?
Je me suis fait connaître beaucoup par le bouche à oreille au début, parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de communication. Sinon par le biais de lorsque je pars en marché de création et d'artisanat. Pour moi en fait c'est un des moments qui est difficile à gérer, mais en même temps qui est super important, parce que c'est le seul moment où je peux rencontrer mon public et voir des gens. Donc c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que sinon je suis toute seule dans mon atelier, et il y a des jours où ça me va bien, il y a d'autres jours où c'est un peu long. Donc du coup, c'est surtout par ce biais-là de pouvoir expliquer en direct ce que je fais. Et du coup, derrière, le bouche-oreille fait son petit chemin.
Emeline, je crois savoir que dans votre atelier, vous écoutez Couleur FM, non ?
Oui, parce qu'effectivement, j'aime bien, parce que pour travailler, ça va super bien. On a autant une bonne playlist et puis des émissions qui sont très intéressantes. Et du coup, c'est vrai que pour travailler, c'est assez agréable.
À quelle clientèle vous adressez-vous ?
Alors, ma clientèle, elle est assez large, ce que je pensais pas forcément au début. On va dire que je m'adresse à une clientèle particulièrement féminine, entre 30 et 55 ans. Mais si j'élargis plus, ma plus jeune cliente, elle a 15 ans, je crois. Et la plus âgée, elle doit être autour des 70-80.
Et si je peux me permettre, moi je connais des gens qui ont une façon de s'habiller assez classique, qui n'ont pas hésité à acheter une création d'Emeline.
Oui, c'est justement ces petits moments-là où moi ça m'étonne toujours, parce que c'est vrai que j'ai une patte qui est assez particulière, hein, tout le monde n'aime pas et n'apprécie pas, heureusement. D'un côté, mais c'est vrai que c'est des moments que quand je vois arriver des personnes qui ont un style assez assez simple, assez classique, et qui pour autant osent porter, c'est vrai que pour moi je me dis finalement j'arrive à toucher des personnes qui sont c'est pas leur manière de s'habiller. Et je crois que soit ils sont attirés par la couleur, l'originalité, ou alors aussi souvent, et c'est là l'intérêt des marchés, c'est par la démarche, justement, le concept, le temps que je passe à leur expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée là, comment je fais, que je partage en fait ma passion. Et du coup, c'est des personnes où au début, elles vont prendre un petit article... on va dire assez simple dans ce que je peux avoir, et puis plusieurs après elles vont revenir et elles vont oser des choses un peu plus cossues, avec un peu plus de caractère, et du coup je me dis c'est des beaux moments, ça, voilà, j'arrive à toucher d'autres personnes.
Pouvez-vous nous parler de votre blog et si vous avez des mannequins de 15 à 80 ans?
Alors oui, pour le moment donc j'ai mon blog qui est en train de se transformer en site. Alors, j'ai pas particulièrement de mannequins. Après, c'est de temps en temps où maintenant j'y viens plus, parce que du coup, moi je me sens plus à l'aise aussi avec ce que je crée et avec ma patte. Donc maintenant, ouais, je demande à des amis de venir poser. Parce que je veux vraiment que ce soit des personnes qui portent mes vêtements, des personnes comme vous et moi.
parce que c'est ces personnes-là qui m'achètent mes créations et qui sont finalement les plus représentatives. Donc sur le blog et bientôt le site, vous retrouverez des photos de mes créations. Les dernières en date, on a fait un petit shooting avec la noisette justement qui avait 15 ans. Mais après, vous pouvez voir d'autres personnes complètement différentes. Là, il n'y a pas longtemps, début janvier, j'ai fait un petit défilé dans le cadre d'une exposition, pareil, d'une de mes clientes qui est artiste de ses doigts aussi, qui présentait une collection d'œuvres textiles, murales, et qui m'a demandé si je voulais faire un petit défilé. Donc moi j'ai dit oui, ok. Alors c'était un petit peu la panique, parce que c'était un petit peu organisé à la dernière minute, mais au final, j'avais réuni à peu près 8 personnes, et qui étaient complètement de style et d'âge différents, et qui ont défilé dans une bonne ambiance, de façon très simple, et ça a eu un rendu qui a été vraiment apprécié du public, parce que justement, ils s'y retrouvaient, ils pouvaient s'imaginer dans les créations en se disant « tiens, ça je pourrais le porter ». Et voilà, et en fait tout était dit, c'est vraiment ce qui est ressorti de et ce que je voulais qu'il ressorte, que je crée pas une certaine catégorie, je crée pour tout le monde.
Pouvez-vous expliquer aux auditeurs comment accéder à votre blog et bientôt à votre site?
Alors, pour le blog, il suffit de taper www.luniversdem.canalblog.com. L'univers de M.
La lettre.
D'accord. Et pour le site, qui est encore pas complet, il faut taper universdem.fr.
Est-ce que je peux savoir si vous continuez à vous former, auprès de qui, à quel rythme?
Je n'ai pas encore suivi d'autres formations. En fait, je me forme moi-même. Des fois, je me dis que c'est la meilleure des formations. Jusqu'à présent, on va dire, en 5 ans, j'ai pas trouvé le besoin, puis j'en avais plus envie de retourner forcément sur les bancs de l'école à apprendre. Déjà, de me former à la couture, c'était beaucoup pour moi. Parce que finalement, je suis complètement autodidacte, donc il a bien fallu apprendre en fait certaines techniques. Tout ne vient pas comme ça. Maintenant, au bout de 5 ans, où là j'ai quand même eu une bonne évolution, et puis j'ai quand même une technicité qui est prouvée, quoi, à laquelle moi je me suis confrontée. Parce que la dernière création en date, c'était quand même une robe de mariée, donc ça a été le plus qui m'a dit ça y est, j'ai atteint un autre niveau. Donc maintenant, ouais, je me dis que ça serait bien, j'aimerais bien intégrer peut-être une autre formation, dans quoi je ne sais pas, mais m'ouvrir en fait à d'autres horizons. Je crois que j'ai besoin d'aller trouver autre chose, une autre inspiration, à découvrir d'autres horizons, ouais.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous travaillez seule.
Oui.
Est-ce que vous avez envisagé embaucher quelqu'un?
Non. Il y a des moments, j'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que dans le métier de créateur, finalement, on n'est pas que créateur. Et c'est ça que les gens ne voient pas. On est créateur, on est fabricant, on est vendeur, on est commercial, voilà. On est gestionnaire. Du coup, on arrive à 5 corps de métiers différents pour une seule personne qui a 2 bras, qui la nuit dort un peu. Mais pour autant, pour le moment, je peux pas, parce que financièrement, c'est un peu compliqué. Et puis, je crois que j'en ai pas envie plus que ça.
Vous avez peur qu'on vous vole vos modèles?
Pas qu'on me les vole, mais ou alors si je devais embaucher quelqu'un, ça serait plus pour s'occuper de toute cette partie de communication.
Commerciale.
Après, dans ce qui est dans la création, on m'a plusieurs fois proposé et j'ai dit, mais je peux pas, parce que moi, je crée... même si j'ai des modèles de base, j'ai des patrons de base sur lesquels je pars, mais chaque création, ça vient comme ça. Puis au dernier moment, je me dis, je vais mettre ça plutôt que ça, et ça, c'est pas possible. Et je me dis, même si j'avais tout préparé à l'avance, je pourrais pas laisser quelqu'un d'autre coudre. Ça fait partie d'un processus je vais partir de tel tissu. Et puis ça se construit, et puis une fois que j'ai tous mes tissus, je passe à la coupe, et puis après jusqu'au bout, jusqu'à l'aboutissant. Et le meilleur moment, c'est quand je vois la réalisation complète. Et je me dis, bon, bah, c'est chouette, c'était ça que je voulais.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer comme vous l'avez fait?
Oula, alors, je dirais de... Bah, d'y aller, parce que c'est beau de croire en ce projet et puis de pouvoir faire ce qu'on aime tous les matins, même si c'est compliqué. Après, voilà, après 5 ans, je me dis, je pense qu'il faut quand même savoir où on va, savoir ce qu'on veut, prendre le temps de vraiment mûrir le projet de ce qu'on veut faire et où on veut l'amener. Maintenant, je me dis peut-être que si j'avais su, bon, on n'est jamais trop tard, mais... Je me serais peut-être formée dans, bah justement, dans les corps de métier qui ne sont pas les miens, à savoir tout ce qui est avoir des outils de communication, de management, de savoir gérer son entreprise. Je pense que c'est plus ça. Mais la première envie, c'est être animée par voilà, par la passion de vivre de ce qu'on fait.
Oui, on vous sent justement très très passionné. Moi, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a dans ces 5 ans qui viennent de passer quelque chose qui vous a particulièrement touché? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avec nous?
Je pense qu'on, enfin, j'ai pas un élément qui m'a touché. Je pense que c'est plus en faisant le bilan d'un petit peu d'où je suis partie et où j'en suis maintenant, ou si. Le moment qui m'a permis de continuer, je dirais, c'est le moment voilà, où je me suis retrouvée dans mes créations. Je me suis dit, là, c'est vraiment moi. Et puis après, c'est toutes les paroles de, bah, des personnes qui croisent mon chemin et qui continuent et qui m'encouragent à continuer, à me dire que, voilà, il paraîtrait que j'aurais des doigts en or, mais bon. Et après, si, le moment voilà, où vraiment... je me suis dit, ouais, si, j'aime ce que je fais. Ça a été ce moment de la réalisation de ma première robe de mariée, qui était pour moi un super challenge parce que j'y connais absolument rien dans ce monde-là et dans ces techniques-là. Et en même temps, la personne pour qui je l'ai fait, c'était une magnifique histoire d'amitié qui s'est concrétisée tout au long, en fait. Et ça a été vraiment un moment très chouette et j'ai toujours... À ce moment ressort, cette émotion ressort encore maintenant quand je regarde les photos de ce que j'ai fait. J'ai du mal à me dire, ouais, finalement, si t'es arrivé à ça, alors qu'il y a quelques années auparavant, c'était juste un rêve, entre guillemets, à me dire, et peut-être qu'un jour, je ferai une robe comme ça, quoi.
Donc, ce chemin parcouru, Emeline, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez?
Ouais, sans hésiter, je le referais. Parce que, quand on voit dans le monde dans lequel on est, qui n'est pas toujours facile, et quand j'entends des proches me raconter leur ambiance de travail, tout ça, je me dis, mais finalement, certes, c'est pas facile non plus ce que je vis, mais quand même, cette liberté n'a pas de prix. Et je me dis, si je dois m'en vouloir, bah, finalement, je m'en veux qu'à moi. Quand je suis contente, finalement, je me félicite moi-même. Mais ouais, c'est surtout voilà, cette liberté de création et de pouvoir vivre ma passion, elle n'a pas de prix. Donc, je le referai sans hésiter.
Et quels sont vos projets à court terme ou sur le long terme?
Alors, à court terme, c'est de continuer mon petit bout de chemin, explorer de nouvelles créations, de nouvelles idées, essayer d'aller chercher dans d'autres salons un peu plus pro, passer à une autre catégorie, enfin une autre étape un peu plus professionnelle. Et à long terme, j'espère un jour trouver mon petit atelier sur une petite ruelle et puis pouvoir créer ma petite boutique. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, Emeline, puisque nous arrivons à la fin de votre interview?
Ben, je dirais juste qu'on se rende compte quand même que, bon, certes, j'ai une passion qui m'anime et j'espère qu'elle continuera très longtemps. Mais je voudrais quand même faire partager ce côté qu'on ne voit pas quand on est tout seul dans notre atelier à se poser beaucoup de questions. Et qu'en fait, qu'on comprenne bien que certes, je fais ce que je veux, je décide de mon emploi du temps, de mes temps libres, de mes moments de boulot. Mais il y a quand même beaucoup de moments qui sont très compliqués à gérer moralement, parce que c'est des périodes où on est toujours dans l'incertain, même si ça fait aussi partie du jeu.
Il y a des périodes de doute, parfois.
Il y a des grosses périodes de doute. Et je voudrais dire que si mon entourage n'était pas là, n'était pas présent, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment aussi remercier mes parents, mes amis, les gens que je croise et qui me donnent ce courage et cette énergie de continuer. Si on n'était pas entouré, je pense que la passion, au moment, elle passerait en second degré. Enfin, on reste humain et avec nos émotions, nos moments de doute, et même si on croit en ce qu'on fait, si on n'a pas cette énergie-là qui vient des autres, il y a un moment donné, c'est plus possible. Donc voilà, je tenais aussi vraiment à remercier toutes les personnes qui m'entourent et qui me permettent de continuer et de croire en ce que je fais.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Emeline. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Donc, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Là, nous allons faire une petite pause musicale avant de rejoindre Lucette Saint-Anne, qui vient d'ouvrir une mercerie en plein centre de Bourgoin. Je vous propose d'écouter Alain Souchon, qui nous entraîne assez malicieusement sous les jupes des filles.
Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes bien les palons, les bières, les Khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elle, affiaire, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La 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 la
vient d'écouter Sous les jupes des filles d'Alain Souchon. Et en fait, vous allez vous apercevoir un petit peu plus loin dans l'émission qu'il n'est pas le seul à s'intéresser aux jupes des filles.
Donc, nous allons partir dans un magasin plein de tissus, plein de boutons, plein de fils et de coton coloré, qui est tenu par la nouvelle mercière de Bourgoin-Jallieu, Madame Lucette Sainton.
Ah tiens, il y a une mercerie ici. Vous connaissez, c'est nouveau?
Oui, mais écoutez, moi, je la connais, cette dame. Vous voulez qu'on aille voir?
Ah oui, volontiers. Allez, volontiers. Oui, volontiers. Allez,
on y va.
Vous n'avez pas peur, il y a des petites souris.
Madame Sainton, vous êtes là?
Oui.
Eh bien, écoutez, il y a des gens là qui aimeraient bien faire votre connaissance et voir un peu votre magasin. Vous nous acceptez? On est nombreux, je vous avertis.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour, ça sent bon la mercerie.
J'ai beaucoup de choses et j'ai pas beaucoup de place.
Racontez-nous cette boutique, elle est toute récente, on vient de la découvrir. Depuis quand avez-vous ouvert?
Alors j'ai ouvert le 16 septembre, donc 2014, tout de suite après la rentrée des classes. Justement, j'aurais bien voulu ouvrir un petit peu avant la rentrée des classes, mais j'ai pas pu. Il y a eu des empêchements administratifs, disons.
Avant, ici, il y avait quoi d'autre? Parce que je ne connais pas trop, donc avant la mercerie, c'était quoi comme magasin?
Ça n'avait rien à voir, c'était un magasin de vêtements de travail. D'accord. Et de prêt-à-porter féminin, disons. Voilà, un petit peu de lingerie, elle avait un petit peu de tout, cette petite dame.
Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir une mercerie à Bourgoin? C'est une passion, c'est un choix économique, local. Racontez-nous un petit peu.
Ça, c'est une vieille histoire. Tout d'abord, je n'ai pas travaillé dans le commerce. Hein. Je suis déjà, disons, d'un âge certain.
Non.
Comment non? Si, si. Je vous dirai peut-être un jour. Mais bon, j'ai réalisé, en fait, un peu le rêve de ma mère. Ma mère, tout comme moi, travaillait au PTT, ce qu'on appelait les PTT. Donc moi, j'ai fini à France Télécom. Mais ma mère tricotait énormément. Et elle avait rêvé d'ouvrir une boutique à Bourgoin, de laine à tricoter. Et puis, le hasard a fait que, et surtout la malchance, a fait qu'elle s'est attrapée un crabe, disons, pour pas dire un cancer. Et elle est morte à 54 ans. Donc le projet, ben, il est tombé à l'eau. Puis moi, bon, ben, j'ai fait ma carrière professionnelle. Et j'ai élevé mes enfants. On a récupéré avec mon mari donc notre maison. Et puis est arrivé l'heure de la retraite. Et puis à la retraite, eh ben, je m'y suis pas faite parce que je manquais de contact. Et je suis restée 5 ans à la maison. Un jour, mon mari me dit, écoute, tu deviens vraiment pénible. Il va falloir faire quelque chose. Alors j'ai dit, bah, je vais me remettre à la couture, puisque ma grand-mère était culottière. Donc moi, j'avais appris à coudre, j'avais appris à tricoter, je faisais tous les vêtements de mes enfants, je m'habillais moi-même. J'ai dit, bah, je vais me remettre à coudre. Et puis bon, à me remettre à coudre, eh ben, j'étais toute seule avec ma machine à coudre, mes patrons. Et j'ai dit, je vais faire autre chose. Un jour, je vais en ville, au mois de janvier 2014, donc il y a un an. Je vais en ville et je cherche du tissu pour me faire un pantalon de ville. Alors je suis revenue à la maison et puis j'ai dit à mon mari, ben j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors je vais trouver une occupation, je vais ouvrir un magasin. Alors il me dit, quoi? Tu veux ouvrir un magasin? Je te vois arriver, t'as pas l'intention de remettre en route l'élevage que tu avais mis en place? Parce que quand je me suis arrêtée de France Télécom, j'avais monté un élevage de volailles. Et j'avais commercialisé les produits. Je me suis arrêtée quand j'ai été grand-mère. Alors je lui dis, non, je ne veux pas me relancer là-dedans. J'ai tout liquidé. Il est hors de question de repartir à faire de l'élevage. Et puis c'était quand même pénible. Je lui dis, je vais ouvrir un magasin. Oui, tu as bien entendu. Il me dit, parce qu'avec toi, il faut s'attendre à tout. Et c'est dans quel domaine? Je lui dis, écoute, je vais essayer d'ouvrir un magasin de tissus. Il me dit, tu crois? Alors un jour, je me suis prise par la main, parce que j'ai quand même fait une petite enquête. Ce qu'on appelle en grands mots une étude de marché. Et je me suis pointé un vendredi matin. Alors j'ai dit, je vais prendre le vendredi. Et le samedi, je me suis mise sur le parking de Leclerc avec un calepin Si vous, je vous aurais rencontré, mesdames, si un magasin de tissus à Bourgoin s'ouvrait, est-ce que vous seriez intéressées? Alors, oui, oui. Mais, ah ben, on aimerait bien aussi avoir de la laine à tricoter. Ah bon? Eh oui, parce qu'il n'y a plus rien. Ah bon? Je tricote, mais j'ai acheté ma laine à Bergère de France par correspondance. Alors, je râlais un peu parce que je me disais quand même 6 euros de frais de port, ça fait cher. Il me manque une pelote, rebelote 6 euros de frais de port. Et si j'en ai une de reste, eh ben, si j'ai payé ma pelote de laine 3,50 euros, ben, je me la garde. Et puis, ben, ça fait un nid à mythes. C'est vrai, j'ai un chat, il adore jouer avec les pelotes de laine. Mais enfin, bon, ça fait quand même un peu cher. Alors, quand j'ai fait ma petite étude, ben, je me suis aperçu qu'il y avait non seulement besoin de tissus, mais en plus de laine à tricoter et de mercerie, parce que dans le centre de Bourgoin, il y avait une mercerie rue piétonne qui a fermé. Donc, il n'y avait plus rien. Alors, j'ai changé d'avis. J'ai dit, ben, puisque il manque tout ça, ben, je vais essayer de partir sur les 3 produits. Alors, je suis partie en quête. J'ai d'abord cherché les fournisseurs. Fournisseurs de tissus, ça n'a pas été facile. Parce qu'en France, on ne trouve plus rien. J'ai essayé avec l'Italie, je n'ai pas trouvé. Finalement, je suis quand même trouvé des tissus au nord de Tarare. Et tous mes cotons et tous mes polyesters que vous voyez ici, ils viennent du nord de Tarare. Voyez. Donc, c'est encore des colorants français, c'est important, parce que les colorants français sont quand même contrôlés, encadrés, et on a quand même moins de risques d'eczéma et de choses comme ça. Et ça, c'était quelque chose à laquelle je m'attachais énormément. Parce que la laine, je savais que j'allais prendre Bergère de France, parce que c'est encore fabriqué en France à Bar-le-Duc. Et comme il me fallait une deuxième petite marque, j'ai pris Lamy. C'est une marque hollandaise qui est fabriquée en Hollande, donc européenne. Donc là aussi, il y avait un contrôle de colorant et de fabrication. Et puis, ma foi, bon, en mercerie, ben, je me suis débrouillée, parce que la mercerie, tant bien que mal, le hasard a voulu que je rencontre l'ancienne mercière qui était rue Piétonne, qui m'a gentiment donné le nom de son fournisseur, donc je l'ai contacté. Et puis, j'ai contacté un peu d'autres domaines aussi, et je suis arrivée à faire mon stock. J'avais pour projet d'ouvrir quelque chose en location. Quand j'ai vu le prix d'accès au pas de porte, j'ai dit halte là, parce que c'est quand même cher. Après, derrière, il fallait payer la location. Alors, je me suis entendue avec ma fille, qui est infirmière libérale. Je lui ai dit, il ne te reste pas un petit peu des sous de côté, là, pour me donner un petit coup de main? Parce que, bon, mes sous à moi, je vais m'en servir pour payer mon stock, parce que ça, hors de question d'avoir un prêt. Donc, le stock, si on n'a pas de stock, on ne fait rien. Et le stock, il faut le payer comptant. Aussi bien en laine qu'en tissu qu'en mercerie. Oui, je suis partie avec mes fonds personnels en ce qui concerne le stock, l'aménagement. Et pour les murs, parce que j'ai acheté les murs, j'ai fait une SCI, ce qu'on appelle une société civile immobilière, avec ma fille. Et là, on a fait un prêt. J'ai été obligée de me mettre avec ma fille. Pourquoi? Parce que vu mon âge canonique, les banques, ben, elles se sont fait tirer l'oreille. Et pourtant, j'avais des garanties. Mais ces messieurs-dames, ils sont très frileux, et même trop frileux. Et je dis même que c'est un embargo pour la vie économique du pays. Parce que si les banques ne prêtent pas aux entreprises ou aux gens qui ont des projets, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On peut pas. C'est pas possible. Donc, si on fait pas confiance, alors finalement, j'y suis arrivée. Mais il a quand même fallu que je passe avec un courtier. Pourtant, Dieu sait si je m'y connais, j'en suis pas à la première opération immobilière. Mais j'ai été obligée de prendre un courtier en prêt. Et la dame, elle a été formidable, hein, pour ça. Ça a été vraiment une réussite. J'ai pas regretté de m'être adressée à elle. En ce qui concerne le stock, moi j'ai même une banque, pour tout vous dire, je lui ai dit, j'ai l'intention d'agrandir mon patrimoine en achetant des locaux commerciaux. Ah, mais pourquoi vous voulez investir dans les locaux commerciaux? Nous, on a des produits financiers qui sont parfaits. Je lui fais pardon? Vous, les produits financiers, vous commencez déjà à nous prendre 1% sur tout ce qu'on vous verse. Et après, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Moi, j'ai investi jusqu'à présent dans la pierre et je continuerai à investir dans la pierre parce que je ne veux pas vous faire profiter de mon argent. Il n'était pas content. Hein. Et il m'a dit, ben non, ben on ne vous prête pas. Et ben je lui ai dit, ben je trouverai ailleurs. Et effectivement, j'ai trouvé ailleurs. Oui, c'est vrai, j'ai réalisé un double rêve. Et c'est un respect pour elle, surtout, et j'y pense tous les jours quand je viens. Je me dis, elle, si elle me voit, si toutefois elle me voit, elle doit quand même être fière de moi quelque part. Et même ma grand-mère, parce que quand je change une fermeture éclair, que je suis en train de faire en ce moment, quand je suis en train de tricoter pour quelqu'un, ben, je suis contente. Et puis, il y a autre chose. J'ai une fille et un garçon. Mais ma fille, elle n'a pas le temps de coudre. Et puis, elle a un défaut majeur, elle est gauchère. Alors, pour apprendre à tricoter, à coudre ou à faire du crochet à une gauchère, eh ben non. Elle tricote un peu, mais elle fait tous les points à l'envers. Elle tricote, elle s'est installée en face de moi, puis elle a regardé comment je faisais. Mais tout mon savoir, parce que je sais aussi bien coudre à la main qu'à la machine, et tout mon savoir, ben, il reste pour moi, puis il sera perdu. Alors quand je vois des petites jeunes qui viennent, ah ben, je voudrais bien faire ça, mais je suis prête à vous aider.
Vous avez donc, si j'ai bien compris, des ateliers, puisque vous transmettez votre savoir. Vous pouvez peut-être nous dire quel type d'atelier ?
Alors, je ne fais pas de la couture, parce que la couture, ça impose d'avoir des machines à coudre, ça impose beaucoup de choses. Et puis, j'ai une petite dame du côté de Nivola qui a fait une entreprise, une auto-entreprise. On travaille toutes les deux ensemble. Elle était tellement heureuse que j'ouvre un magasin de tissus que quand il y a des clientes qui veulent apprendre à coudre, je les envoie chez elle systématiquement. Par contre, le tricot, je m'en charge, ainsi que le crochet. Alors, le tricot, c'est du vendredi au samedi, entre midi et 2h. Pourquoi ? Parce que le stationnement est gratuit. Il y a des personnes qui travaillent sur Bourgoin, qui sont libres entre midi et 2, bon, qui ont du temps à tuer. Alors, autant l'utiliser agréablement. Et puis, par les temps qui courent, autant être au chaud. Le crochet, par contre, c'est que le vendredi aux mêmes heures. Et je suis heureuse de pouvoir transmettre mon savoir. Vous voyez, parce que ce ne sera pas perdu, quoi, disons.
Moi, ce que je retiens dans tout ce que vous dites, je trouve ça formidable. On peut dire « mieux vaut tard que jamais ». C'est beau, votre témoignage.
Oui, mais bon, jusqu'à présent, j'ai fait quand même déjà pas mal de choses. Et puis, c'est le fait d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir été en contact avec énormément de gens, puis de m'être souvent secouée. J'ai pas pu rester à la retraite. Je me suis sentie devenue inutile.
Mais c'est beau parce que vous êtes allée au bout de votre rêve. Et ça, c'est formidable.
Ah oui, 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 ça c'est vrai. Je suis allée au bout du rêve, oui. Oui. Parce qu'on a des fois des chimères et puis on ne met jamais en application. Tandis que là, je suis allée quand même jusqu'au bout. Hein. Et je regrette rien en plus. Rien.
Alors le moment est venu de notre pause musicale. Nous quittons Lucette Saint-On pour une autre Lucette. Lucette Raya avec la môme au bouton. Tout un programme.
C'était tout près du pont des Arts qu'elle exploitait son petit négoce. On pouvait voir la pauvre gosse tôt le matin et tard le soir. Avec un sourire très doux, elle tendait dans sa petite menotte de jolis boutons de culotte qu'elle vendait pour quelques sous. C'est la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, tant pour sauver qu'elle a pauvre toutes les culottes des autres et gagner son crouton. Elle en avait toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Elle en avait des noirs énormes et des petits blancs avec des fleurs. Elle en avait des transparents avec des reflets idylliques. Elle en avait de métalliques qui se défaisaient rapidement. C'est la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, tant pour la soie des coquettes ou la toile des chemisettes. Bouton tête ne tant. Mais hélas, le sort du bouton est semblable à celui des roses. Pauvres fleurs qui à peine éclosent sont taquinées par le bourdon. elle donne à son cœur et sa chair un gars pourtant sympathique, mais qui un jour avoua cynique, je suis dans la fermeture éclair. Et la môme au bouton, bouton, au bouton de culotte, pauvre môme pas là, perdit toute raison, zon, devant l'affreux dilemme, quitter celui qu'elle aime, ou trahir ses boutons. Sa vie devint un drame, alors des cauchemars hantaient sa cervelle. Elle en eut une varicelle et des boutons partout le corps. Mais lui, sans pitié, continuait dedans sa fermeture éclair. Ainsi s'appelait notre ouvrière, Claire, dont sentait qu'elle craquait. Et la môme au bouton, tant, au bouton de culotte, par une nuit pas là, s'éteignit sans façon. Alors le gars crut bon, bon, lui l'homme sans tendresse, à la quête de la messe, balancer, oh, balancer un billet de 100 francs pour bien fêter cette aventure, balancer un billet de 100 francs, c'est le curé qui fut content, blanc.
Vous êtes toujours sur Couleur FM, émission Fenêtre sur cour. Nous sommes aujourd'hui dans la boutique de Lucette Saint-Ton qui nous fait visiter son magasin qui regorge de trésors. Lucette, c'est à vous.
Quand vous entrez sur votre droite, vous avez le côté broderie, donc tout ce qui est point compté, ce qui est canevas, toile Aïda, toile de lin, les boîtes à couture, les kits pour enfants. Après, ben, vous avez tout ce qui est modèle, donc et de point compté et de broderie, ainsi que les modèles Bergère de France, puisque c'est Bergère de France qui est mon plus gros fournisseur en fil à tricoter et à crocheter. Alors après, sur votre droite, vous avez toute la laine Bergère de France. J'ai pas l'ensemble du catalogue d'échantillons, mais j'ai quand même les principales qualités de fil. Et si je ne les ai pas, je les commande. Donc on les a dans la semaine. Je fais à peu près une commande par semaine. Donc on a toujours. Et puis si j'ai un petit décalage, bon, en fait, je me débrouille pour être livré rapidement. Et si la cliente ne peut pas se déplacer, j'envoie livrer chez elle. Donc là, vous avez tout ce qui est Bergère de France. Et au fond, vous avez donc la fameuse laine hollandaise. Alors, c'est un petit complément. En plus, cette laine, elle est moins chère que la laine Bergère de France, mais c'est une bonne qualité. Donc, il y en a un peu pour tous les budgets. D'accord. Voilà. Et puis, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle est un peu moins classique. Il y a un petit peu plus de fantaisie. Donc si on continue faire le tour, on va tomber dans la partie broderie avec tout ce qui est mouliné, toute la gamme de mouliné DMC là à droite, toute la gamme Rotor pour faire notamment les tapisseries en canevas. Vous avez les boutons, il y en a 600 sortes, hein, il y en a 600 tubes là. Et puis vous avez après toute la partie mercerie proprement dite, avec les aiguilles, les ciseaux, le fil à repriser, parce qu'il y a encore des gens qui reprisent, de la laine Saint-Pierre pour repriser, broder et festonner, n'est-ce pas, enfin, différentes couleurs. Vous avez toutes les fermetures éclair, les biais, les satins, les élastiques, les fils, donc fils DMC pur coton et Gutermann, c'est plus des fils polyester. Et puis pour terminer un petit peu la gamme, j'ai des collants et des bas. Voilà. Et puis là, alors, sur l'extrême gauche, hein, j'ai toutes les aiguilles à tricoter, les crochets, les aiguilles circulaires, les autocollants pour boucher les trous, pour décorer les vêtements, pour renforcer les genoux des enfants, des pièces en jean, des pièces en Liberty, des noms à faire tisser ou à faire imprimer pour marquer les vêtements. Et au centre, eh ben vous avez les tissus. Tout ce qui est coton, polyester, lainage, jersey, émail, viscose et de la soie. Voilà, en gros, tout ce que j'ai à proposer dans mon magasin. C'est vrai que des fois, c'est un peu serré. Hein,
là. Il y a encore beaucoup de personnes qui cousent, qui font eux-mêmes leurs vêtements.
Ben, écoutez, je pense qu'il y en a, mais je suis pas trop connue encore pour les tissus. Et puis, je suis pas désespérée pour autant, parce que l'hiver, on a plus envie de tricoter. Et puis, les vêtements d'hiver, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut les doubler. Alors, j'espère qu'à partir du mois de mars, les choses vont changer pour les tissus, parce que je vais avoir tout ce qui est tissu d'été et de printemps, disons. Et pour faire des vêtements en tissu plus léger, c'est moins difficile. Vous n'avez pas le phénomène de la doublure, et la doublure, c'est horrible. Hein. Si vous la mettez pas comme il faut, votre vêtement va pas aller, il va y avoir des poches, ce sera pas joli. Tandis que pour l'été, ça demande quand même beaucoup moins d'investissement du point de vue couture. Oui. Puis, il y a toujours la possibilité d'aller voir ma petite copine là-bas, à Nivola, pour se faire expliquer la couture.
Auriez-vous des hommes parmi vos clients?
Ça m'arrive. Oui, j'ai des hommes qui viennent.
Des hommes qui font de la couture.
Il y a des hommes qui viennent me chercher des boutons, du fil. Oh, il faut que je vous raconte une anecdote. J'en ai même un jour qui est venu. Il n'est pas très loin. Et je suis sûr que s'il entend, il se reconnaît. Il est venu, il m'a dit, j'ai cassé la fermeture éclair de ma braguette. Est-ce que vous auriez une épingle de nourrice? Moi, je lui ai donné une épingle de nourrice. Hein, qu'est-ce qu'il fallait faire?
Mais vous n'avez pas mis, vous, l'épingle?
Ah non. Non. Je ne prends pas ce risque, moi. Hein, jamais. Enfin, je risquais de le piquer, oui, en plus. Hein, on ne sait jamais.
Eh bien, merci, Lucette. Nous sommes toujours sur Couleur FM 97.1.
Afin de terminer sur une note couture, voire haute couture, nous vous avons sélectionné un passage, je dirais assez réjouissant et peut-être malicieux, du grand couturier Christian Lacroix.
Les femmes de mon enfance, oui, c'est un très vaste sujet. Et c'est vrai que bon, moi, je suis né au début des années 50, donc c'était encore l'époque où le new look perdurait. Donc les femmes avaient des longues jupes, enfin des jupes assez longues, avec beaucoup de jupons. Et à quatre pattes, j'allais me mettre, j'en faisais des tipis. Pendant qu'elle bavardait, on prenait un café, moi j'étais sous les jupes et je me laissais aller aux effluves de parfum, à toutes ces choses délicates et délicieuses. Et je pense que je ne serais pas ce que je suis et je ne ferais pas le métier que je fais. Et peut-être qu'effectivement, je n'aurais pas dessiné ces boîtes de la même façon.
Pour clore notre émission, quelques infos. La Cité de la CAF organise des sorties de neige lundi 9 février à Autran, jeudi 12 à la Fécla. Et puis, construction de Lego aussi en février, mardi 17, mercredi 18, sur inscription.
Et le mercredi 18 février à 19h, les barbares sont toujours avec nous à Ruy-Monceau. Au restaurant La Caravelle pour un spectacle complètement burlesque autour d'une chaise. Vous avez la possibilité aussi de prendre un repas et tous les renseignements au 04 74 28 37 05. 04 74 28 37 05.
Un pucier aussi, c'est le pucier des couturières à Saint-Agnès-sur-Bion le dimanche 13 mars.
Nous avons passé un excellent moment avec vous. Nous vous disons au revoir. Enfin, pour ma part, bonne semaine à vous. À très bientôt.
Merci à tous. À bientôt sur Couleur FM 97.1.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci, à bientôt. Thank you.